Romains chapitre 12, verset 10, qu'il y avait diversité de langues. Le fait de parler en langue par le touchement de la puissance du Saint-Esprit faisait de toute évidence partie d'un contexte de différents dons que possédaient diverses personnes dans des buts variés. D'après les exemples cités dans le Nouveau Testament, au moins deux buts principaux se détachent. Celui d'une révélation divine et celui d'une édification. Il semble que dans certains cas, le don des langues permettait également à quelqu'un d'interpréter. C'est ce qui se dégage, par exemple, de la lecture de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26 et verset 28. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous pour qu'il y ait un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Par ailleurs, il apparaît lorsqu'on lit en 1 Corinthiens chapitre 14, versets 5 et 13, que d'autres pourraient être leur propre interprète. Écoutons plutôt. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Tandis que l'Église du Seigneur grandissait aux temps apostoliques, certaines assemblées retrouvaient dans le rang des hommes et des femmes de nationalité et d'expression différentes, possédant à la fois le don miraculeux de pouvoir pour un temps s'exprimer dans une diversité de langues et d'autres dons spirituels. Une juste estimation de la valeur et de l'utilité de parler en langue dans une église dont la maturité grandit avec le temps est donnée par l'apôtre Paul lorsque celui-ci dit aux chrétiens de Corinthe et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je? Si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Et Paul conclut même en ajoutant, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. » À ceux qui devaient faire les œuvres miraculeuses de l'Esprit, il est promis par le Seigneur, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. À partir de ce qui précède, nous allons nous poser une série de questions logiques et pertinentes. Premièrement, si aujourd'hui, quelqu'un peut parler en langue, peut-il également boire quelques breuvages mortels sans qu'il ne fasse de mal? Deuxièmement, s'il est possible de nos jours de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de parler en langue, cette personne peut-elle imposer les mains aux malades et guérir les mêmes maladies que les apôtres? Troisièmement, si quelqu'un est capable dans le temps moderne de parler en langue par la puissance miraculeuse de l'Esprit, ne pourrait-il pas toujours par la même puissance ressusciter les morts comme les apôtres? Quatrièmement, s'il y avait encore moyen de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de s'exprimer en d'autres langues, comme certains le faisaient dans l'église de Corinthe durant l'époque apostolique, ne serait-il pas alors également possible de prophétiser ou de faire des révélations selon que l'Esprit donnerait de s'exprimer? En 1 Corinthiens 14, 2 et 22, Paul écrit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ». Plus loin, il ajoute, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Une question vient tout naturellement à l'esprit. Ne va-t-il jamais y avoir de langue à donner? La conclusion qu'on peut tirer de ceci est que, si quelqu'un parle une langue que les hommes ne sont pas en même de comprendre, il s'agirait d'une langue à donner. Et bien que Dieu la comprenne, elle n'en reste pas moins dénuée de valeur pour l'être humain. Le fait même que Paul dise « les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants, prouve clairement que les langues bénéficient bien à l'homme et non à Dieu. Puisque ce langage est destiné aux non-croyants, il ne peut s'agir d'une langue inconnue utilisée pour s'entretenir avec Dieu et qui est hermétique au commun des mortels. Et l'apôtre Paul le conclut, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. De plus, pourquoi devrait-il y avoir des gens qui interprètent si parler en langue n'est pas destiné à ceux qui veulent tirer profit de ce qu'ils entendent? Mais que pourrons sans doute pas entièrement ce qui signifiait parler en langue dans l'Église du premier siècle. Autrement dit, si c'était destiné à convertir le pécheur ou à édifier l'Église. Mais deux choses sont cependant certaines. La première, c'est par la puissance directe de l'Esprit-Saint que certains pouvaient parler en langue. Et la deuxième, c'est que ce langage était sans conteste destiné à ceux qui comprenaient intelligiblement ce qui était dit. C'est-à-dire qu'une relation miraculeuse existait entre l'utilisation de ces langues et la révélation divine. Le message transmis par ceux qui, aux temps apostoliques, parlaient en langue, était-il réservé à Dieu ou à l'être humain? Certains, prétendant parler ce langage exotique, soutiennent que ce langage s'adressait à Dieu et non à l'homme. Et l'argument servant de base à cette affirmation est qu'il existe toujours aujourd'hui des gens qui parlent en langue. De toute évidence, personne ne comprend ceux qui assurent pratiquer ce don. Mais cela ne les gêne en rien, car, disent-ils, ces personnes parlent directement à Dieu et non à leur entourage. Mais voyons de plus près ce point de vue. La déclaration de l'apôtre Paul disant que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, indique bien qu'en réalité, ce mode d'expression ne pouvait être compris des hommes, et non qu'il n'était pas destiné à être compris par eux. Le contexte refute complètement l'idée que le parler en langue bénéficie avant tout aux non-croyants. Lorsqu'il dit, répétons-le, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. L'apôtre, lorsqu'il affirme que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, indique simplement que dans de telles circonstances, un tel langage ne serait compris que par Dieu seul et non par les hommes. Tout ceci refuterait donc les arguments avancés à propos du parler en langue et de son but. Et l'apôtre Paul dit encore, de même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sera-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air. Le don des langues adressé à Dieu ou à l'homme était un don miraculeux reçu soit par la puissance accordée après un baptême de l'Esprit-Saint, comme en acte 2, soit par la position des mains des apôtres, selon l'exemple d'acte 8 ou 19. En 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, Paul déclare d'une manière péremptoire que ces effusions miraculeuses de l'Esprit comprenaient les dons suivants. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité de langues, l'interprétation des langues. Si le don des langues a subsisté jusqu'à notre époque, il faut en toute logique admettre que les autres dons spirituels existent toujours également, car l'effusion miraculeuse du Saint-Esprit ne peut être limitative quant au genre de miracle que sa puissance permet de réaliser. Existe-t-il une seule personne sur Terre possédant sans équivoque possible une connaissance surnaturelle et recevant des révélations directes de Dieu? Une réponse affirmative signifierait que ceux qui ont été divinement inspirés pour écrire le Nouveau Testament ont falsifié l'Évangile de Christ lorsqu'ils déclarent que les Écritures représentent une révélation de Dieu à l'homme complète en soi et définitive dans sa finalité. En Galates 1, 6 à 7, Paul écrit ces paroles à la fois révélatrices et tragiques. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Où peut-on donc trouver une personne qui possédant le don de guérison est capable de guérir une maladie incurable, de purifier un lépreux et de ressusciter les morts? Si vous trouviez des gens capables de guérir des infirmes de naissance, des affections internes et externes, de ressusciter des morts et de parler par révélation divine, tout comme aux temps apostoliques, vous verriez également des gens capables de parler en langue. Si vous arriviez à trouver les uns, vous devriez nécessairement trouver les autres. Rien n'y peut changer, même pas le fait que les langues s'adressent prétendument à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même si vous ne pouviez comprendre les langues qu'ils parlent, vous pourriez malgré tout être convaincu s'ils guérissaient réellement un corps rongé par la lèpre, ou un boiteux de naissance, ou encore s'il ressuscitait tout simplement un mort. Ce membre-là, vous n'en trouverez jamais aucun. Je vous exhorte tout simplement, avec mes pauvres moyens, et en un langage de tous les jours, de ne pas vous laisser abuser par des gens sans scrupules, et même parfois sincères aussi, qui prétendent pouvoir vous guérir. Ils vous attirent ainsi sur un chemin qui n'est pas celui de la vérité et du salut que vous offre le Fils de Dieu. Soyez plutôt comme ces Juifs qui avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact.